Le 19 juin 1953, Julius et Ethel Rosenberg, condamnés à mort pour espionnage, sont exécutés sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing à New York.
Condamnés à mort dans les formes juridiques depuis 2 ans, pour livraison de secrets atomiques, et après avoir usé de tous les recours, Ethel Rosenberg et son mari Julius Rosenberg ont subi la peine de mort malgré tous les appels à la clémence. Ils avaient attendu pendant 2 ans l'heure du supplice.
2 ans auparavant, en effet, le couple, qui pourtant n'avait cessé de clamer son innocence, a été reconnu coupable d'avoir, pendant la Seconde Guerre mondiale, volé les secrets de la bombe atomique au profit de l'URSS. Un crime impardonnable dans une Amérique aujourd'hui chauffée à blanc par l'anticommunisme et la guerre en Corée. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, les avocats des Rosenberg ont multiplié les recours en appel.
Mercredi 17 juin, les comités de défense des Rosenberg organisent des manifestations dans le monde entier. À Londres, à Hyde Park, à Paris, place de la Nation, à Bruxelles, à Rome, à Sydney, à Alger, à Vienne, partout. Aux États-Unis, des milliers d'Américains prennent à New York un train spécial pour Washington. Ils manifestent devant la Maison Blanche. Ils demandent audience aux députés et aux sénateurs du Congrès américain. Il est dit que le pape Pie XII a intercédé auprès du président Eisenhower en faveur des Rosenberg.
Et la veille même de l'exécution, dans le monde entier, des manifestations monstres ont appelé à sauver les Rosenberg, exhorter le président Eisenhower de leur accorder sa grâce. Rien n'y a fait. Le couple laisse derrière lui Michael et Robert, des orphelins de 10 et 6 ans, qui, devenus adultes, ne cesseront de demander justice pour leurs parents. En 1975, par exemple, Michael réclamera l'ouverture des archives secrètes du procès, des archives qui, leur disait-on, renfermaient les preuves irréfutables de leur culpabilité.
Maintenant, aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle le Freedom of Information Act. Et selon cette loi, tous les documents dans les archives des gouvernements, jusqu'à aujourd'hui secrètes, doivent être ouverts. Nous demandons au gouvernement américain d'ouvrir ces archives, montrer au monde les grandes preuves que vous avez dit il y a plus qu'au procès, parce qu'ils ne veulent pas ouvrir.
Et pendant 50 ans, cette affaire avec ses zones d'ombre continuera de passionner et d'enflammer les esprits. Les Rosenberg étaient innocents, leur procès était truqué. Ou au contraire, coupables, ces espions qui ont trahi leur pays méritaient la mort.
À New York, d'autres Américains manifestent au Palais des Sports, à Madison Square, contre les Rosenberg et demandent leur exécution.
Mesdames, Messieurs, je voudrais vous lire un poème écrit par un bon Américain. Et quand les Rosenberg seront morts et drapés dans un linceul pourpre, tous les traîtres sauront, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, qu'ils risquent aussi de griller sur la chaise. L'Amérique trop longtemps a fermé les yeux. La sentence de mort aujourd'hui sera maintenue, les Rosenberg doivent griller et mourir, et si à cette mort ils risquent d'échapper, notre bannière étoilée ne pourrait plus flotter.
Edgar Hoover. Cela fait plusieurs années que le patron du FBI et une grande partie de l'Amérique ferraille contre la menace communiste. Depuis le début de la guerre froide en 1947, l'Union soviétique, l'ancien allié pendant la Seconde Guerre mondiale, est devenue l'ennemi numéro un, à l'extérieur comme à l'intérieur. Des commissions ont été créées pour enquêter sur les activités anti-américaines de personnes ou d'organisations communistes, réelles ou supposées. Un événement plus récent n'a fait que renforcer la peur des Rouges. Alors que depuis 1945, les États-Unis étaient les seuls à posséder l'arme atomique, soudain, le 29 août 1949...
vitesse à la bombe. Hiroshima, Nagasaki, puissent ces noms rappeler au gouvernement leur terrible responsabilité au moment où le problème nucléaire, échappant au contrôle d'une seule nation, atteint véritablement à l'échelle mondiale.
Comment les Soviétiques ont-ils percé le secret de la bombe ? Forcément par de l'espionnage. Il faut trouver les coupables. Et comme si cela ne suffisait pas, le 25 juin 1950, un conflit mettant face à face l'Est et l'Ouest éclate en Asie. La guerre de Corée. C'est dans ce contexte à haut risque, quasi hystérique, que trois semaines plus tard débute ce que l'on va appeler l'affaire Rosenberg. Vrai espionnage ou manipulation politique ? Juillet 1950, dans le Lower East Side à New York, un quartier populaire au sud de Manhattan, où depuis le début du siècle se concentre une forte communauté d'immigrants juifs. Un quartier pauvre, mais aussi très vivant, là où ont grandi Gershwin et les Marx Brothers, avec ses ateliers, ses boutiques et ses salles de spectacle yiddish. Au 10 Monroe Street, dans le Knickerbocker Village, un bloc de logements sociaux, Julius Rosenberg, 32 ans, et sa femme, Ethel, 35 ans, vivent avec leurs enfants dans un 3 pièces au 11e étage. Il fait une chaleur étouffante ce soir d'été. La petite famille écoute à la radio un feuilleton, The Lone Ranger, un western très populaire à l'époque. Il est 20h30 quand soudain on sonne à la porte. Julius a à peine le temps d'ouvrir.
FBI, vous êtes Julius Rosenberg ?
Que 12 hommes du FBI pénètrent en trombe dans l'appartement, passent les menottes à Julius, sous les yeux effarés de sa femme et de son fils aîné.
Avez-vous un mandat d'arrêt ?
Taisez-vous et restez dans la chambre avec les enfants.
Fouille de fond en comble les 3 pièces et embarque Julius. Le soir même, la radio annonce la nouvelle.
Arrestation à New York d'un espion. Julius Rosenberg et son beau-frère David Greenglass auraient transmis des secrets atomiques à l'Union soviétique. Le réseau, bientôt démantelé.
Le lendemain, Ethel Rosenberg, qui ne se laisse pas démonter, convoque la presse chez elle, dans sa cuisine. Les photos prises ce jour-là immortaliseront l'image rassurante d'une mère de famille des années 50, devant son évier, un torchon à la main. Une espionne, elle, cette maman, tout sauf sexy, au regard si doux, c'est impossible.
Avez-vous jamais soupçonné votre mari d'avoir des activités subversives ?
Mais non, jamais. Et nous sommes mariés depuis 11 ans.
Avez-vous déjà assisté à des réunions communistes ou signé des pétitions communistes ?
Non, ni lui ni moi n'avons jamais été communistes.
Des déclarations qui, au FBI, ne suffiront pas à convaincre. Le 11 août, Ethel Rosenberg, à sa grande surprise, est arrêtée à son tour. Désormais seuls, Michael et Robert, alors âgés de 7 et 3 ans, sont accueillis dans l'urgence par leur grand-mère, la mère d'Ethel, qui, peu aimante, ne tardera pas à les placer dans un orphelinat du Bronx. En même temps que les Rosenberg, sont arrêtés également Morton Sobel et David Greenglass, le propre frère d'Ethel. Tout le réseau d'espionnage de Julius, ou prétendu tel, est démantelé. Certains ont pu fuir à temps. Le procès très attendu par les Américains s'ouvre le 6 mars 1951 avec l'acte d'accusation du procureur.
« This case is one of unusual significance.
Ce procès a une signification inhabituelle.
The evidence will show that Sobel
Nous apporterons les preuves que Morton Sobel et Julius Rosenberg, anciens camarades d'université, se sont voués à la cause communiste.
This love of communism and the Soviet Union
Cet amour du communisme et de l'URSS les a conduits rapidement à un réseau d'espionnage soviétique.
We will prove that the Rosenbergs devised and put into operation
Nous prouverons que les Rosenberg ont conçu et mis à exécution, avec l'aide d'agents soviétiques de ce pays, un plan élaboré qui leur a permis, grâce à David Greenglass, de voler l'arme qui détient sans doute les clés de la sécurité de notre pays, la bombe atomique.
Sur quoi se fondent ces accusations ? Dans la presse, les Américains apprennent qu'en janvier 1950, Klaus Fuchs, un savant de nationalité britannique qui a travaillé pour le programme Manhattan de fabrication de la bombe A, a avoué avoir, pendant la guerre, livré des secrets atomiques à Moscou. C'est grâce à ces aveux que le FBI a mis la main sur Harry Gold, qui à son tour a avoué et permis ainsi de remonter jusqu'à David Greenglass. Celui-ci, arrêté le 15 juin 1950, accepte également de parler et plaidera coupable. En contrepartie, il obtient que sa femme, Ruth, ne soit pas inquiétée. C'est David Greenglass qui dénonce son beau-frère Julius, ainsi que sa sœur, Ethel, les accusant de l'avoir embarqué dans leur réseau d'espionnage. Voilà comment les choses se seraient passées. Fin 1944, c'est encore la guerre. David Greenglass est mobilisé au Nouveau-Mexique dans un camp militaire appelé Los Alamos. Lors d'une permission à New York, il raconte à son beau-frère qu'à Los Alamos, des savants élaborent dans le plus grand secret une arme d'une puissance inouïe. Julius Rosenberg, comprenant qu'il s'agit d'une information capitale, se serait alors employé à convaincre son beau-frère de voler le secret de la bombe pour les Soviétiques. « Il n'est pas juste, lui dit-il, que les Américains soient seuls à la posséder. » David Greenglass devra remettre les documents à un intermédiaire, un certain Harry Gold, lors d'un rendez-vous à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Leur signe de reconnaissance est pour le moins incongru, à base d'un emballage de Jell-O Jelly, un dessert instantané très populaire aux États-Unis. Aurait découpé l'emballage en deux moitiés irrégulières et donné une moitié à chacun des deux espions. Le 3 juin 1945, comme convenu, Harry Gold se rend au rendez-vous à Albuquerque. David Greenglass.
He asked if I were Mr. Greenglass and I said yes.
Il m'a dit, êtes-vous Monsieur Greenglass? Oui, je lui ai répondu.
He stepped through the door and he said, Julius sent me.
Il a passé la porte et m'a dit, c'est Julius qui m'envoie.
I walked to my wife's purse and took out the part of the Jell-O box.
Dans le sac de ma femme, j'ai pris le morceau de la boîte de Jell-O.
Gold produced his piece.
Il a sorti son morceau à lui.
And we checked them and they fitted.
Et on a vu que les deux s'emboîtaient parfaitement.
Greenglass aurait alors fourni les documents secrets à Harry Gold, qui, de retour à New York, les aurait transmis à son officier traitant du NKVD, les services secrets soviétiques, un certain John. En réalité, Anatoly Yakovlev, à l'époque le consul soviétique à New York. Parmi ces documents, le dessin de la lentille qui sert de détonateur à la bombe. C'est de cette manière que le secret le plus précieux des Américains serait passé aux Russes en 1945. Au procès, quand le juge lui demande s'il a fourni à Julius Rosenberg une description précise de la bombe, Greenglass répond.
I did. In September 1945, when I was again
oui, en septembre 1945, quand j'étais à New York, j'ai fait un dessin de la bombe atomique et préparé une vingtaine de pages écrites. Julius les a lues et m'a dit, c'est vraiment bien. Il faut taper ça à la machine tout de suite.
Et quand le juge demande qui a tapé le texte, Greenglass répond sans hésiter.
Ethel did the typing.
C'est Ethel qui l'a tapé.
Parole fatale, puisque c'est ce témoignage de David Greenglass qui fera tomber Ethel, sa sœur. Le 29 mars 1951, après 14 jours de procès et 8 heures de délibération, le verdict tombe. les Rosenberg sont coupables. Une semaine plus tard, le juge Kaufmann regarde les Rosenberg dans les yeux et leur délivre la sentence, dans un discours très politique.
La question de la sentence dans cette affaire se présente dans un cadre historique unique. Il est très difficile de faire prendre conscience aux gens que ce pays est engagé dans un combat de vie ou de mort contre un système complètement différent. Je considère que votre crime est pire qu'un meurtre. Je pense que votre conduite en mettant dans les mains des Soviétiques la bombe A, des années avant que la Russie ne soit en capacité seule de la produire, a déjà eu pour conséquence l'agression communiste en Corée qui a fait plus de 50 000 victimes. Et qui sait combien de millions d'autres innocents auront à payer le prix de votre trahison. En effet, par votre traîtrise, vous avez sans aucun doute changé le cours de l'histoire, aux dépens de notre pays. Nous en voyons chaque jour le résultat. La défense civile agit dans notre pays pour nous préparer une attaque atomique. Il n'est pas dans mon pouvoir, Julius et Ethel Rosenberg, de vous pardonner. Je déclare que vous êtes condamnés à mort.
Julius manque de s'évanouir, Ethel le retient.
Un des plus grands drames d'espionnage de l'histoire de notre nation a atteint son apogée. Alors que Julius Rosenberg et Morton Sobel, reconnus coupables d'avoir révélé des secrets atomiques aux Russes, arrivent au tribunal fédéral de New York pour connaître leur sort, un autre membre du réseau, Madame Ethel Rosenberg, qui avec son mari est accusée d'avoir transmis les secrets à la Russie par des canaux diplomatiques soviétiques. En face de l'impressionnant juge Erving Kaufmann, qui après les avoir déclarés responsables indirectement de la mort de milliers d'hommes en Corée, les a condamnés à mort et Sobel à 30 ans de prison, c'est la première fois en temps de paix qu'une peine de mort est prononcée pour espionnage, et alors que les condamnés s'apprêtent à faire appel, il semble certain que les espions se dirigent vers une voie à sens unique.
Pendant 2 ans, l'avocat des Rosenberg va multiplier les recours pour empêcher l'exécution. Un comité de soutien est créé. Une intense campagne de presse se met en marche aux États-Unis et dans le monde pour sensibiliser l'opinion à la cause des Rosenberg. Une campagne généreuse, mais, on le découvrira plus tard, orchestrée par l'Union soviétique, dans le but d'attirer la sympathie mondiale sur les Rosenberg et de faire oublier le procès stalinien et antisémite qui se déroule au même moment à Prague, le procès Slansky. À Paris, un grand meeting a lieu au Vélodrome d'hiver. André Morois, Pablo Picasso, Tristan Tzara, Jean Cocteau, Julien Quin, François Mauriac, Jean-Paul Boncourt, Louis Aragon, Georges Duhamel, Henri-Georges Clouzot, Jean-Paul Sartre, Maurice Druon envoient des messages demandant la grâce des Rosenberg. À Londres, des milliers de manifestants à Piccadilly Circus et Oxford Street. Une délégation se rend à Downing Street pour demander à Winston Churchill d'user de son influence auprès du président Eisenhower. Mais Churchill est dans sa maison de Chestwell et il refuse d'intervenir.
Rome, violente manifestation. Un mort, plusieurs blessés.
En France, la campagne, menée principalement par le journal L'Humanité, excède les rangs des communistes. On voit des intellectuels de droite ou chrétiens comme François Mauriac appelés à la clémence, même si Jean-Paul Sartre reste le plus virulent. Il dénonce un lynchage légal, un meurtre rituel et met en garde « Attention, l'Amérique à la rage ». Mais ces protestations seront vaines après 2 ans d'une terrible attente et d'espoir déçu pour les Rosenberg.
Dans la nuit du 19 au 20 juin, Ethel et Julius Rosenberg sont exécutés dans la prison de Sing Sing à New York. Julius d'abord, Ethel ensuite.
Les bourreaux ne viendront à bout d'Ethel Rosenberg qu'après 3 décharges électriques. Un téléphone avait été installé dans la salle de la chaise électrique pour que jusqu'à la dernière minute, l'exécution puisse être suspendue au cas où Julius ou Ethel acceptent de reconnaître leur culpabilité et de livrer des noms. Pendant longtemps encore, la conviction persistera que les Rosenberg étaient innocents. En 1968, l'historien Alain Decaux écrit une pièce de théâtre au titre explicite « Les Rosenberg ne doivent pas mourir ».
Personnellement, je pense qu'ils étaient innocents. et je ne suis pas le seul, notamment des historiens américains pensent maintenant de plus en plus nombreux que les Rosenberg ont été électrocutés pour rien. Et c'est évidemment une des choses les plus terribles qu'on puisse imaginer, car cette condamnation, sans preuve, n'aurait pas pu se produire s'il n'y avait pas eu le climat d'intolérance qui existait à cette époque, le fameux climat McCarthy.
Mais au début des années 90, le même Alain Decaux fera interdire toute représentation de sa pièce. Que s'est-il donc passé ? Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Julius et Ethel Rosenberg espionnaient au profit de l'Union soviétique. Pour le grand public, la vérité a peu à peu émergé avec l'ouverture dans les années 80 des archives du FBI et surtout en 1995 avec la déclassification de documents secrets de la CIA. On y apprend que dès 1943, les services américains avaient engagé une opération ultra-secrète, colossale, de décryptage de messages radio soviétiques, l'opération Venona. Car les États-Unis se méfiaient de l'Union soviétique, pourtant leur allié. Ils n'avaient pas tort. Depuis les années 30, Moscou pratiquait chez les Américains un espionnage intensif, notamment industriel. Envoyant sur place des agents, faux diplomates ou illégaux, mais aussi en puisant dans le vivier du Parti communiste américain. Et parmi les 3000 messages qui ont pu être décryptés, plusieurs dizaines, transmis entre Moscou et l'antenne à New York du NKVD, révèlent que sous les pseudonymes mystérieux de « libéral » ou de « antenne » se cachait un certain Julius, espion pour l'URSS depuis 1942, et que son épouse Ethel connaissait ses activités. Ce sont ces informations, décryptées seulement en 1950, qui ont conduit à leur arrestation et à leur condamnation. Mais ces éléments top secrets ne pouvaient être révélés au procès. C'est pourquoi les juges avaient besoin d'aveux et de témoignages en guise de preuve. Et c'est en espérant obtenir les aveux de Julius que le FBI a arrêté Ethel et que la justice la condamnera à mort. Mais cela n'a pas fait fléchir Julius, ni Ethel. Conscients de laisser derrière eux des orphelins, ils refuseront néanmoins de parler. Depuis 1950 donc, le FBI, le gouvernement, les juges savaient tout du passé de Julius et Ethel Rosenberg.
The days dark and stormy while great Lenin led us. Our eyes saw the bright sun of freedom of all.
L'hymne du Parti communiste américain que Julius et Ethel connaissaient sans doute. Car bien qu'il l'ait toujours nié, l'un et l'autre étaient communistes, et depuis longtemps. Tous les deux enfants d'immigrés juifs pauvres venus d'Europe centrale, c'est le krach de 1929 qui les a amenés à s'engager. Convaincus que cette crise annonçait la fin du capitalisme et que c'était en Union soviétique que se construisait l'avenir radieux de l'humanité. Lecteurs du Daily Worker, le journal du parti, Julius et Ethel se rencontrent lors d'un meeting en 1936. Ethel, qui aime aussi chanter et jouer la comédie, n'est pas la moins active des deux. Elle manifeste, distribue des tracts, signe des pétitions, appelle les ouvriers à se mettre en grève. Elle se serait même un jour enchaînée à un radiateur pour empêcher une expulsion. Ethel ressemble sans doute à Katie Morosky, le personnage fictif du film de Sidney Pollack, Nos plus belles années. Barbara Streisand y campe une militante communiste passionnée qui, en 1937, harangue des étudiants américains en faveur de l'URSS.
Des milliers d'Espagnols sont bombardés, mitraillés, assassinés. Une seule nation leur envoie de l'aide. Une seule. L'Union soviétique. Vous devez craindre toute personne. Tout pays qui ne se dressera pas pour défendre la paix mondiale menacée.
En 1939, Julius et Ethel se marient. Elle est sténodactylo dans un bureau. Lui, qui vient d'obtenir son diplôme d'ingénieur, est embauché dans une usine produisant pour l'armée. C'est sans doute ce double profil de militant fidèle et d'ingénieur au contact des nouvelles technologies militaires qui va intéresser le NKVD. Si l'on sait aujourd'hui comment Julius est devenu espion, c'est grâce à Alexandre Feklissov, un ancien officier du NKVD en poste à New York pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, en 1999, a publié ses mémoires.
Le
22 juin 1941, Molotov, le ministre des Affaires étrangères, au nom du camarade Staline, s'adresse aux citoyens de l'Union soviétique.
Aujourd'hui, à 4 heures du matin, sans déclaration de guerre, l'armée allemande a attaqué notre pays.
L'invasion par les nazis de l'URSS déclenche immédiatement chez Julius Rosenberg le désir de sauver la patrie du communisme. L'occasion arrive le 7 septembre 1942, le jour du Labor Day, la fête du travail aux États-Unis.
Cette affiche de la fête du travail représentant un ouvrier américain typique vous adresse un message spécial de la part des ouvriers de toute la nation. Les travailleurs américains saluent le grand travail de production déjà accompli et se consacrent à celui qui reste à accomplir contre les puissances de l'Axe. La liberté individuelle, de conscience, d'expression ne périra pas. Le travail libre vaincra.
Julius Rosenberg va faire un autre choix. Le 7 septembre 1942, il se rend à l'immense fête du Labor Day organisée à Central Park à Manhattan. Un camarade du parti doit le présenter à un homme important. Rien de tel que la foule pour une rencontre secrète. L'homme, surnommé Henry, s'appelle en réalité Semyon Semyonov. Officiellement diplomate, Semyonov dirige en fait la Residentura, l'antenne du NKVD à New York. L'homme est calme et aimable, mais l'image est trompeuse. C'est lui qui, en 1938 à Paris, a assassiné le trotskiste Rudolf Clement, qu'il a poignardé puis découpé en morceaux. Morceaux qu'il a ensuite méticuleusement jetés dans différents points de la Seine. La ferveur de Julius fait bonne impression à Semyonov, qui va l'initier à la conspiratia, en russe l'art de l'espionnage. Ils se rencontreront plusieurs fois, déjeunant ensemble dans des petits diners pas chers, le salaire d'espion soviétique n'est pas lourd, ou pour 55 cents, ils ont droit au menu complet, ragoût de rognon, soupe et dessert. Julius, tout en mangeant, bombarde Semyonov de questions sur l'URSS, la vie quotidienne là-bas, notamment sur celle des Juifs. La patrie de Staline, il en est sûr, est le seul pays capable de mettre fin à l'extermination des Juifs par les nazis. De fil en aiguille, l'agent secret se plaint à Julius que les États-Unis dissimulent leurs dernières découvertes technologiques à leurs alliés soviétiques, qui en ont pourtant tant besoin. Julius Rosenberg ne se fait pas prier.
Je trouve injuste que vous combattiez seul notre ennemi commun. Si je peux faire quelque chose pour vous aider, vous pouvez compter sur moi.
C'est ainsi que Julius devient espion. En rentrant le soir du travail, il retrouve Semyonov pour lui remettre des documents militaires secrets. Selon la technique dite du brush pass, en glissant les documents secrets dans un journal. À l'heure du rendez-vous, sinon pas repéré d'agents du FBI à proximité, Julius avance dans la rue, tenant à la main son journal. Tout en marchant, il va le passer tranquillement à Semyonov, sans le regarder ou donner tout signe de reconnaissance. L'agent soviétique passe ensuite les documents à un collègue qui se dépêche de les microfilmer, puis de revenir les rendre à Julius pour qu'il les rapporte le lendemain à son bureau. C'est ainsi que Julius Rosenberg et les autres agents de son réseau transmettront au NKVD des milliers de rapports secrets sur les radars, sur les fusées à détonation de proximité, les réacteurs d'avions et autres appareils. Des informations qui seront capitales aux soviétiques. En septembre 1944, Julius raconte à Alexandre Feklissov, son nouvel officier traitant, que son beau-frère, David Greenglass, vient d'être affecté à une base militaire où, paraît-il, des savants mettent au point une arme secrète d'une très grande puissance. Feklissov, bien sûr, dresse l'oreille. Et Julius a toute confiance en son beau-frère.
« Je donnerai ma main droite à couper s'il nous laisse tomber. »
Et c'est ainsi que David Greenglass et Julius Rosenberg fourniront aux Soviétiques le fameux secret de la bombe atomique. En réalité, sûrement pas le, mais des secrets. Et certainement beaucoup moins important que ceux apportés par Klaus Fuchs, qui, lui, au Royaume-Uni, n'écopera que de 9 ans de prison. Mais est-elle Rosenberg, condamnée à mort et exécutée au même titre que son mari? Était-elle vraiment une espionne? Son frère David Greenglass, on l'a entendu, a affirmé au procès que c'était elle qui avait tapé à la machine le document sur la bombe atomique. En sortant de prison en 1960, Greenglass changera de nom et disparaîtra. Il faudra attendre les années 80 pour qu'un journaliste, Sam Roberts, retrouve sa trace et que Greenglass accepte de parler. Le frère d'Ethel fait alors une incroyable révélation. Il reconnaît qu'il n'a jamais vu sa sœur taper le fameux document.
Même à l'époque, je n'en avais aucun souvenir.
Donc Ethel est allée à la chaise électrique sur la base de preuves qui étaient fausses.
Fausses. Enfin, je ne dis pas qu'elles étaient fausses.
Enfin, ce soir-là, vous ne l'avez pas vu taper.
Pour autant que je m'en souvienne, je ne l'ai pas vu taper, non.
Si Julius et Ethel étaient dans cette pièce aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur dirais qu'ils ont été vraiment stupides. Vraiment stupides.
Ils étaient
intelligents d'une certaine manière. C'était de vrais croyants.
Pourquoi David Greenglass a-t-il menti au procès? Sans doute pour protéger sa femme et ses enfants. Alexandre Feklissov affirme de son côté qu'il n'a jamais rencontré Ethel Rosenberg et que si elle connaissait sans doute l'activité d'espionnage de son mari, elle n'y était pas vraiment associée. Pour d'autres historiens, au contraire, Ethel n'était pas seulement une épouse dévouée, dont le rôle se serait limité à taper aveuglément des documents à la machine. Cette ancienne militante communiste partageait les idéaux et les secrets de son mari. C'est peut-être pour cette raison, par conviction politique, que jusqu'au bout, Julius et Ethel Rosenberg ont refusé de parler. En mourant, ils pensaient servir l'Union soviétique et le communisme, qui, ils n'en doutaient pas, allait bientôt devenir le genre humain.
Une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.